Et à cette heure, que se passe-t-il? Le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À la veille d'un samedi noir redouté dans tout le pays, le Premier ministre a annoncé hier soir des moyens exceptionnels, près de 90 000 forces de l'ordre déployées dans tout l'Hexagone, ainsi qu'une douzaine de blindés de la gendarmerie à Paris. Des moyens qui ont manqué samedi dernier face à une violence inédite, un climat anxiogène décrypté dès le début de ce journal.
Près de 150 lycéens à genoux, main sur la tête, interpellation massive à Mantes-la-Jolie en région parisienne. L'image est partout sur les réseaux sociaux. Reportage dans un instant.
Nous irons également en Allemagne dans ce journal où une question obsède le pays. Qui pour succéder à Angela Merkel à la tête de la CDU, le parti conservateur allemand, est réuni en congrès jusqu'à samedi à Hambourg. Et c'est dès cet après-midi que l'on pourrait connaître le nom du successeur de la chancelière.
Et puis la question du jour, Catherine. Pourquoi béatifier les moines de Tibérine? Je pose la question dans une dizaine de minutes à Gauthier Vaillant, journaliste à La Croix.
89 000 policiers et gendarmes déployés partout en France demain. 8 000 rien qu'à Paris, où des gilets jaunes prévoient toujours de manifester pour le quatrième week-end consécutif. Des forces de l'ordre plus nombreuses que la semaine dernière, plus mobiles surtout pour réagir en cas de besoin face aux violences. Et puis, du jamais vu dans le centre de Paris face à des manifestants, 12 véhicules blindés de la gendarmerie ont été réquisitionnés par le Premier ministre pour intervenir face à des barrages éventuels. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Après les scènes de guérilla urbaine de samedi dernier, hier soir aux 20h de TF1, Édouard Philippe a réaffirmé que l'exécutif prenait toute la mesure de la colère et de la violence exprimée depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, comme une veillée d'armes, en somme, dans un climat anxiogène. Sophie.
Un climat hystérisé dans lequel l'exécutif semble pris de panique face à une situation qui échappe à tout contrôle. Édouard Philippe a rappelé le climat de menace qui s'est installé depuis ces deux dernières semaines et la violence qui s'est déchaînée samedi dernier.
Quand vous voyez que les représentants des Gilets jaunes, qui demandent à me rencontrer, et à qui je dis « venez me rencontrer », sont menacés de mort, monsieur Boulot, parce qu'ils vont voir le Premier ministre de la République française. Quand vous voyez que des élus de la République, élus au suffrage universel, dans le cadre démocratique, sont menacés, parfois menacés de mort, leur famille menacée, quand vous voyez, monsieur Boulot, qu'au Puy-en-Velay, j'y insiste, au Puy-en-Velay, des fonctionnaires qui se trouvaient à l'intérieur de la préfecture, ont vu en face d'eux des gens déchaînés qui voulaient brûler la préfecture et eux avec, qui leur disaient en les montrant du doigt « vous allez rôtir comme des porcs ».
Une image digne de Germinal face à ces menaces, Édouard Philippe a voulu répéter comme s'il semblait ne plus en être sûr que les institutions n'étaient pas menacées.
Alors la République, elle est solide. Je ne suis pas inquiet. La République, elle est solide. Ces institutions, elles sont fermes. Elle est défendue par des forces de l'ordre, elle est défendue par des maires, elle est défendue par des associations. Et moi, j'ai entendu, et je m'en réjouis, les appels au calme, les appels à ne pas manifester, formulés par des maires, formulés par des organisations syndicales, formulés par des responsables politiques, y compris des responsables politiques qui ne sont pas favorables au gouvernement, mais qui savent que c'est un bien commun. Et que le bon sens des Français ne peut pas accepter cela.
Le ton est fébrile alors que le Premier ministre et son gouvernement semblent chaque jour davantage sur la sellette en cas de nouvelle escalade.
Et pour soutenir le gouvernement hier, Sophie, les députés de la majorité ont posté chacun une vidéo pour appeler au calme.
Oui, comme Amélie de Montchalin, députée LREM de l'Essonne et première vice-présidente du groupe parlementaire.
La démocratie, c'est le dialogue. Mais la violence n'est jamais un préalable, n'est jamais un point de départ. Surtout si les Français s'opposent à d'autres Français, et surtout si à la fin, la démocratie est en danger. Alors stop aux violences, et soyons tous responsables.
Une communication qui semble dérisoire face au climat qui s'est installé. Le hashtag Stop Violence suit ces vidéos qui font quelques secondes. Le même hashtag qui est utilisé pour réclamer la fin des violences policières. L'Élysée annonce de son côté qu'Emmanuel Macron ne s'exprimera qu'en début de semaine prochaine afin de ne pas mettre de l'huile sur le feu, selon l'expression du communiqué, dans une situation où l'escalade semble de plus en plus incontrôlable d'heure en heure.
Analyse signée Sophie Delpont. Et en prévision d'un samedi noir à Paris, fermeture en cascade de monuments, de musées, de théâtres près des Champs-Élysées, mais pas seulement. Le Louvre, le musée d'Orsay, le Grand Palais ou le musée de l'Homme ont décidé de ne pas ouvrir leurs portes demain, tout comme la Tour Eiffel. Le parcours de la marche pour le climat dans la capitale a par ailleurs été modifié pour éloigner l'événement des Champs-Élysées où des gilets jaunes ont donc de nouveau appelé à manifester. Cette marche partira à 14h de Nation et se terminera à place de la République, mais sans le WWF, qui estime sur Twitter que les conditions de sécurité ne sont malheureusement plus réunis pour garantir un déroulement pacifique de la marche pour le climat. Arrêtons-nous à présent sur les tensions qui agitent les collèges et les lycées un peu partout en France. Près de 300 établissements perturbés hier à Marseille, Béziers, Toulouse, Clermont-Ferrand ainsi qu'en région parisienne où des affrontements violents ont eu lieu depuis 3 jours à Mantes-la-Jolie. Les policiers ont donc décidé hier de procéder à des interpellations massives devant le lycée Saint-Exupéry de Mantes-la-Jolie. Il fallait interrompre un processus incontrôlé, explique le commissaire de la ville. Des interpellations filmés qui ont choqué Grégoire Lecalot.
Voilà une classe qui se tient sage.
Le commentaire de l'auteur d'une vidéo glaçante. Des dizaines de jeunes à genoux, les mains sur la nuque, sont surveillés de près par des policiers en tenue d'émeute. D'autres sont face à un mur de béton, main dans le dos. La scène se passe à quelques dizaines de mètres du lycée Saint-Exupéry à Mantes-la-Jolie. La police a procédé à l'interpellation de 151 personnes d'un coup après des affrontements devant l'établissement. Hichem, 17 ans, n'en fait pas partie, mais il était parmi les manifestants hier.
On les a vus, ils ont tous mis dans un parking. En groupe, main derrière la tête et coup de matraque, tout, comme si c'était des chiens en fait. Ils ont tous emmené dans leur fourgon en fait.
Les jeunes concernés sont âgés de 12 à 20 ans. Thierry Laurent, directeur de cabinet du préfet des Yvelines, s'explique sur cette interpellation hors norme.
C'est dû à l'initiative de la police, à la stratégie adoptée. Il fallait mettre fin à ces violences qui se répétaient et qui augmentaient en intensité, en violence depuis 3 jours. Il est apparu assez rapidement que cela donnait un point de focalisation, y compris pour des jeunes résidant dans des communes avoisinantes. Les forces de police ont notamment été prises à partie par des jets de projectiles, de cocktails Molotov. Un certain nombre de véhicules ont également été incendiés, retournés, dégradés. Il fallait faire cesser ces violences.
Les mineurs de moins de 16 ans ont été remis en liberté dans la soirée. Les autres ont passé la nuit en garde à vue, selon la préfecture.
Si la seule réponse qu'on a à donner à la jeunesse, c'est la matraque et le bâton, vous rendez-vous compte du message que l'on envoie au peuple qui manifeste par ailleurs contre la vie chère? Ces mots sont de Benoît Hamon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, à la tête aujourd'hui du mouvement Génération. Benoît Hamon indigné après ses interpellations filmées hier à Mantes-la-Jolie. Ces images nous insultent, écrit de son côté David Cormand. Rien ne justifie que l'on humilie ainsi nos enfants, déclare le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts sur Twitter. Quant à l'ancien ministre Les Républicains Thierry Mariani, il déclare soutenir les forces de l'ordre qui, je cite, vivent des moments difficiles à cause d'un président qui n'écoute pas les Français. Mais imaginez l'impact de ces images à l'étranger. Et en ces temps de tensions sociales, les sénateurs, eux, tentent de prendre de la hauteur. Alors que le Premier ministre Édouard Philippe est venu hier défendre la pause fiscale du gouvernement au Palais du Luxembourg. Alexandra Dubouchon y était pour France Culture.
On l'appelle la chambre haute. Elle est plus feutrée, moins bruyante que l'Assemblée nationale. Mais dans cette crise des Gilets jaunes, elle entend jouer un vrai rôle. Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie.
Le Sénat a toujours été une chambre qui a constitué un amortisseur pour les grandes crises du pays. C'est l'Assemblée qui défend à la fois les libertés publiques, les territoires et qui essaye d'avoir une analyse moins politique des choses.
Et pas question de dire à Patrick Kanner, le chef de file du groupe socialiste, que les sénateurs sont déconnectés de la réalité.
Le Sénat, peut-être, parce qu'il est composé d'élus locaux qui ont eu souvent affaire à des crises locales. C'est vrai que nous avons une forme d'expérience et finalement c'est ce qui manque au gouvernement.
D'ailleurs, c'est le Sénat qui a tiré très tôt la sonnette d'alarme, rappelle Philippe Dallier du groupe Les Républicains majoritaire.
Le Sénat avait attiré l'attention du gouvernement en disant que si on mettait en œuvre les augmentations prévues chaque année et si le prix du pétrole augmentait, on aurait une situation intenable. On l'a dit il y a un an ici au moment de la loi de finances. On l'a redit il y a quelques semaines d'ailleurs en supprimant l'augmentation.
Pour l'élu de Seine-Saint-Denis, les sénateurs apportent une forme de sagesse.
Vous savez, les députés à l'Assemblée nationale, ils sont toujours dans l'immédiateté sur tous les sujets. Je dirais qu'ici au Sénat, on a peut-être plus de recul et plus le temps de la réflexion.
Une voix dissonante pourtant, celle d'Esther Benbassa, élue Europe Écologie Les Verts de Paris. Elle se sent impuissante.
Vous savez, on vote le budget là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je me sens responsable. Nous n'avons pas su répondre à ces personnes. Ça fait longtemps qu'on aurait dû répondre.
Alors cette semaine, Esther Benbassa a organisé une rencontre entre des sénateurs de tous bords et une dizaine de gilets jaunes sous les ordres du Palais du Luxembourg.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu, direction l'Allemagne à présent où une question obsède le pays. Qui pour succéder à Angela Merkel à la tête de la CDU?
Le parti conservateur allemand est réuni en congrès jusqu'à samedi à Hambourg. La chancelière Angela Merkel prononcera son discours d'adieu ce matin. Puis c'est cet après-midi que l'on sera fixé sur le nom de son successeur. 3 candidats en lice. Jens Spahn, Annegrethe Kramp-Karrenbauer et Friedrich Merz, un millionnaire de 62 ans, évincé du jeu politique par Angela Merkel il y a une quinzaine d'années. 3 prétendants qui veulent tous solder l'héritage Merkel, Ludovic Piétenu.
trois candidats et pas un n'a de mots agréables pour Angela Merkel. Cela fait plus de 18 ans qu'elle dirige la CDU, une longévité hors norme, mais c'est l'heure des comptes. Elle a beau avoir rebâti son parti après l'ère Kohl et les scandales de corruption, peu importe si elle a fait gagner les conservateurs quatre fois d'affilée, les prétendants à sa succession retiennent ses tergiversations. Ils critiquent des choix contraires à l'ADN du parti qu'elle a fait en tant que chancelière, en mettant fin par exemple au service militaire obligatoire, en actant la sortie du nucléaire, en offrant l'accueil le plus large aux réfugiés ou en adoptant le mariage pour les couples de même sexe. Certains à la CDU ne s'y sont pas retrouvés. Quelques-uns ont contribué à créer le parti d'extrême droite AfD. Les trois candidats se présentent donc au vote des délégués au terme d'une campagne interne hyper conservatrice et libérale, la seule voie possible selon eux pour faire revenir les électeurs et stopper en Allemagne l'ascension de l'extrême droite.
Ludovic Piétenu, envoyé spécial de France Culture à Hambourg au congrès de la CDU. Quel bilan tiré des 18 années d'Angela Merkel à la tête des chrétiens démocrates en Allemagne? C'est un article à retrouver sur franceculture.fr. Médecins sans frontières et SOS Méditerranée mettent fin aux opérations de sauvetage de l'Aquarius, leur navire humanitaire devenu le symbole de la crise politique autour de l'accueil des migrants en Europe. L'Aquarius privé de pavillon depuis 2 mois maintenant. Une étape importante aujourd'hui aux États-Unis dans l'affaire sur une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. 1 an et demi après le lancement de l'enquête par le procureur spécial Robert Mueller, l'ancien patron du FBI James Comey va être entendu à huis clos par la Chambre des représentants, tandis que des équipes du procureur indépendant doivent publier dans la journée de nouveaux documents concernant l'entourage proche de celui qui n'était encore que candidat à la présidentielle, Donald Trump. La correspondance à Washington de Grégory Phillips.
James Comey aurait voulu que cette audition à la Chambre des représentants soit publique, car l'ancien patron du FBI dit en avoir assez des fuites sélectives dans cette affaire et de la déformation des faits. Son audition, finalement, se fera à huis clos, mais la teneur des propos sera divulguée 24 heures plus tard. La commission, encore dominée par les Républicains jusqu'en janvier, devrait interroger l'ancien directeur du Bureau fédéral sur l'enquête russe. Donald Trump, à plusieurs reprises, a accusé Comey d'avoir divulgué à la presse des informations confidentielles, mais aussi sur l'affaire des emails d'Hillary Clinton qui avait éclaté quelques jours avant la présidentielle. Dans le même temps, l'enquête du procureur spécial Robert Mueller progresse et ses équipes doivent dévoiler aujourd'hui 2 notes, 2 mémos concernant d'une part Michael Cohen, l'ex-avocat de Trump qui a plaidé coupable d'avoir menti devant le Congrès, d'autre part Paul Manafort, ancien directeur de campagne, qui lui aussi a reconnu avoir menti aux enquêteurs. Tous les deux attendent de connaître leur peine et coopèrent désormais avec le procureur. Enfin ce vendredi, un troisième homme, George Papadopoulos, va sortir de prison après avoir purgé une peine de 14 jours. Il était conseiller politique étrangère du candidat Trump. Il a menti au FBI sur ses contacts avec les Russes. Papadopoulos ne jouait pas un rôle majeur dans la campagne, mais les équipes du procureur considèrent qu'il a été le premier domino capable de faire ensuite tomber tous les autres.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Le temps de ce vendredi 7 décembre, marqué par une forte dégradation avec du vent fort et de fréquentes averses. La perturbation arrive ce matin par la Bretagne avant de traverser le bassin parisien, puis l'est et le sud de l'Hexagone. Les températures sont comprises ce matin entre 5 et 10 degrés en général, du nord au sud.